de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, je vais vous présenter le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Voici le journal d'aujourd'hui. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. L'Indonésie et le Sri Lanka ont de nombreuses opportunités dans le secteur du commerce et de l'investissement. Le CPOPT appelle à une réglementation équitable des exportations d'huile de palme vers l'Union européenne. Le président construira un tunnel souterrain de la mosquée Istiqlal à la cathédrale. Le président Jokowi cible la rénovation de la mosquée Istiqlal qui sera achevée en avril 2020. La Grande-Bretagne applique de nouveaux tarifs commerciaux mondiaux à partir de 2021. Chers auditeurs, voici le journal incomplet. L'Indonésie et le Sri Lanka ont de nombreuses opportunités de coopération dans le domaine du commerce et de l'investissement. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadrice du Sri Lanka en Indonésie, Madame Yasoja Gunasekara, lors d'une interview spéciale à Voice of Indonesia à Jakarta vendredi dernier. Madame Yasoja a souligné que les nombreuses similitudes possédées par le Sri Lanka et l'Indonésie. Elle a affirmé leur relation de similaire à celle de leurs frères et sœurs. S'exprimant sur la récente exportation de wagons, de trains et de textiles d'Indonésie vers le Sri Lanka, elle a déclaré que le Sri Lanka était très heureux de l'implication de l'Indonésie dans son secteur des transports. Elle a également appelé à un intérêt similaire de la part de l'Indonésie pour de nombreuses opportunités uniques offertes par le Sri Lanka.
We would like Indonesians to get more interested.
Nous aimerions que les Indonésiens s'intéressent davantage à l'achat de certains de nos produits d'exportation haut de gamme. Nous voulons que les gens indonésiens plus intéressés à acheter certains de nos produits premium d'exportation. Nous avons beaucoup de produits connus dans le monde, tels que le thé de Ceylan, les pierres précieuses et les produits de joaillerie, y compris le célèbre saphir bleu. Nous avons la ville portuaire de Colombo qui est presque terminée. Il y a un énorme potentiel dans l'immobilier là-bas. Il y aura des opportunités dans le domaine de la logistique. Nous avons des zones de traitement des exportations dans tous les pays et le Sri Lanka dispose d'une variété de main-d'œuvre qualifiée. Nous voulons plus de coopération entre entreprises entre les deux pays. Les deux gouvernements l'ont clairement indiqué. Les deux dirigeants ont clairement indiqué que les entrepreneurs des deux pays pourraient coopérer plus étroitement pour explorer les possibilités. Il y a donc beaucoup de choses que nous pouvons faire. Elle a déclaré que le Sri Lanka a un grand intérêt à investir davantage en Indonésie compte tenu du taux de croissance économique rapide en Indonésie. Elle a également déclaré, bien que le Sri Lanka avait un accord de libre-échange avec l'Inde, un accord commercial préférentiel avec le Pakistan et un accord de libre-échange avec Singapour, il n'en a toujours pas avec l'Indonésie. Cependant, l'ambassadrice Yasoja espère que les dirigeants des deux pays l'ont discuté et le Sri Lanka est très intéressé à coopérer avec l'Indonésie. Le Conseil des pays producteurs d'huile de palme ou abrégé en TPOPG, a organisé un forum à Jakarta vendredi 7 février pour discuter des nouvelles normes de l'Union européenne pour un composé chimique présent dans l'huile de palme, connu sous le nom de 3-MCPD. L'Union européenne prévoit d'introduire les restrictions sur le composé 3-MCPD ou 3-monochlorpropandiolester avec la limite de sécurité de 2500 microgrammes par kilogramme. Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture du forum, le ministre de coordination de l'Indonésie pour les affaires économiques, Airlangga Hartarto, a affirmé que ces règlements étaient injustes et incompatibles avec celles imposées aux autres huiles végétales. Il a souligné la nécessité de développer les économies asiatiques pour commencer à parler sur la scène mondiale.
We have to make several strategies, not allowing a country like Europe to set its own standards.
Nous devons faire plusieurs stratégies, ne pas laisser aux pays comme l'Europe d'établir la norme juste pour le but de protéger leur marché. Nous pouvons parler, le dire à haute voix. Et l'économie de RCEP régionale, l'économie communicative régionale est bien plus grande que l'Union européenne. Nous avons 32% de l'économie et nous avons presque plus de 40% de la population, dont notre voix doit donc être égale à la taille que nous avons. Le vice-président de l'Association indonésienne de l'huile de palme, Togar Sitanggang, a déclaré que si les règlements étaient adoptés dans l'Union européenne, cela limiterait les exportations d'huile de palme vers l'Europe et entraînerait une baisse des prix du produit si le marché a disparu. Le président Joko Widodo construira un tunnel souterrain de la mosquée Istiqlal à l'église cathédrale au centre de Jakarta pour faciliter l'amitié entre les croyants. Cela a été dit par Joko Widodo lors d'observer le processus de rénovation de la mosquée Istiqlal à Jakarta vendredi matin. Le président indonésien a été accompagné du ministre d'État Pratikno, du ministre de la Religion Fahrul Razi et du ministre des Travaux publics et du Logement public Basuki Hadi Mulyono. Concernant le processus de rénovation de la mosquée Istiqlal, qui a commencé en mai 2019, Jokowi espère que tout le processus de rénovation pourra être achevé avant le Ramadan de 2020, afin que la plus grande mosquée d'Asie du Sud-Est, avec un nouveau design et une nouvelle construction, puisse être utilisée par les musulmans pour les prières, tarawih et congrégations. Le président Joko Widodo cible le processus de rénovation de la plus grande mosquée d'Asie du Sud-Est, la mosquée Istiqlal, au centre de Jakarta, qui doit être achevée en avril 2020. Lors d'observer le processus de rénovation de la mosquée Istiqlal à Jakarta vendredi matin, le président Joko Widodo a souhaité que la mosquée Istiqlal, avec sa nouvelle conception et sa nouvelle construction post-rénovation, peut être utilisée par les musulmans pour les prières tarawih en congrégation pendant le Ramadan cette année. Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre des Travaux publics et du Logement public, a rénové des parties de la mosquée Istiqlal comme la dessinée extérieure, intérieure, les parkings, l'état du plancher, y compris l'amélioration des conditions fluviales qui traversent la région d'Istiqlal. En outre, les installations de la mosquée ont également été améliorées, notamment en améliorant la qualité du son, de l'éclairage et de l'air. La Grande-Bretagne prévoit de travailler sur une nouvelle liste tarifaire qui sera appliquée à partir de 2021 pour les marchandises en provenance des pays du monde qu'actuellement n'ont aucun accord commercial, a annoncé jeudi le gouvernement britannique. Le gouvernement a organisé des discussions pendant 4 semaines pour déterminer les règles tarifaires les plus souhaitées du pays, qui sera plus tard appelé UCA Global Tarif. La ministre du Commerce, Liz Truss, a déclaré dans un communiqué que les règles incluraient la simplification et l'élimination des marchandises non produites au Royaume-Uni. Voilà le journal d'aujourd'hui.
Chers amis, voici les infos de l'Indonésie. La première info est venue de la régence Denpasar, Bali. Le gouverneur de Bali, Wayan Koster, a publié un règlement régissant la gestion du vin balinais et des autres boissons traditionnelles. Koster a déclaré mercredi dernier que la publication du règlement était motivée par les boissons fermentées balinaises telles que le vin de Bali, le vin de palme et le brum en tant que source de diversité dans la culture balinaise. Le champ d'application du règlement comprend la protection, l'entretien et l'utilisation, les partenariats commerciaux, la promotion et l'image de marque, l'orientation et la supervision, la participation communautaire, les sanctions administratives et le financement. Les boissons fermentées et ou les spécialités balinaises distinctives comprennent le vin Bali, le brum balinais, le vin balinais, les produits artisanaux et brum ou arak balinais pour les cérémonies religieuses. La protection, l'entretien et l'utilisation sont assurés par les organisations régionales de l'appareil selon leur autorité. Ensuite, l'info de Garut, Jawa West. Le centre de conservation Alang Kamojang a libéré mercredi deux faucons serpents, soit Spilornis Shela, pour protéger la population d'aigles actuellement menacée d'extinction dans la zone forestière Talaga Bodas en régence Garut, Jawa West. Le directeur du centre de conservation Alang Kamojang, Zaini Rahman, a déclaré que la libération de l'aigle à Garut était la énième fois parce que la zone forestière de Garut était un habitat d'aigle qui était considéré comme approprié pour maintenir sa population. Il a déclaré qu'une paire d'aigles nouvellement libérés avait été confisquée aux résidents qui avaient auparavant entretenu l'aigle. Zaini espère que la libération de l'aigle pourra sensibiliser le public pour protéger l'habitat de l'aigle et l'importance de l'aigle pour l'environnement. La dernière info est venue de Wonosobo, Java Central. Le bureau de santé de la régence Wonosobo, en collaboration avec Danone Indonésie, a organisé le festival Isi Piringku dans le terrain du village Pagerjo, Kertek, dans le cadre d'un effort éducatif pour prévenir les retards de croissance à Wonosobo. Le chef du bureau de santé de la régence Wonosobo, Junaidi, a déclaré mercredi que l'activité visait à sensibiliser le public en tant que mouvement conjoint pour prévenir les retards de croissance tout en promouvant les bonnes pratiques concernant le contenu de mon assiette dans le but d'assurer une bonne nutrition. Le retard de croissance est un problème nutritionnel chronique causé par un manque de nutrition sur une longue période et non en fonction des besoins. Ce problème a entraîné un retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, de sorte que la taille de l'enfant est trop courte pour son âge. Junaidi a déclaré que le cas de retard de croissance était un problème nutritionnel majeur pour l'Indonésie. En 2018, le gouvernement a établi 1000 villages prioritaires pour les interventions de retard de croissance dans 100 régions et villes et 34 provinces afin d'accélérer le déclin du retard de croissance. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 8 février. Le 8 février 1942, la ville Banjarmasin à Kalimantan Sud est incendiée. Après la défaite des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, le Japon est entré à Kalimantan Sud le 6 février 1942. Le 8 février 1942, trois navires néerlandais sont entrés dans la ville Banjarmasin pour transporter tous les Néerlandais évacués vers Java. Les Hollandais ont ensuite mené la politique de la terre brûlée en formant une force destructrice spéciale appelée Algemeen Vernieling Corps. L'objectif est que les bâtiments et les installations à Banjarmasin ne soient pas utilisés par les Japonais. Banjarmasin est devenue une mer de feu par des explosions de dynamite. Les émeutes étaient inévitables à cette époque. Des entrepôts, maisons, magasins et bureaux néerlandais ont été pillés. Le 8 février 1963, un coup d'État par des officiers militaires du parti Baath en Irak a réussi à renverser le gouvernement d'Abdul Karim Qassim. Le premier ministre Abdul Karim Qassim est arrivé au pouvoir lors de la révolution du 14 juillet 1958, au cours de laquelle le royaume d'Irak a été renversé par un coup d'État sanglant. Le gouvernement d'Abdul Karim Qassim a pris fin pendant la révolution du Ramadan par Abdul Salam Arif, Abdurrahman Arif et le parti Baath qui a eu lieu le 8 février 1963. Qassim a été tué et Salam Arif est devenu président de l'Irak, décédé plus tard dans un accident d'hélicoptère en 1966. Nous concluons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement de Denis Sassou Nguesso, qui devient le président de la République populaire de Congo le plus long. Denis Sassou Nguesso est le président le plus long dirigeant au continent africain. Il a été nommé président de la République du Congo pour son premier mandat le 8 février 1979 par l'armée. Aux élections générales multipartites de 1992, Denis a perdu. Il s'exile ensuite à Paris de 1992 à 1997. Il revient au pouvoir en 1997 après avoir renversé le président Pascal Lissouba. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir puis a remporté les élections présidentielles de 2002 et 2009. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Hidup terkadang sulit diterka, akan kemana membawa kita. Bila saja segala rencana berjalan apa adanya. Walau tak mudah untuk bertahan, ku menolak kalah oleh keadaan. Meski tiada yang jamin ku di sini, esok masih melihat mentari. Oh, harapan takkan mati, ku tak sendiri. Oh, percaya dalam gelap, sinarkan menyala, harapan kan ada. Berhentilah berputus
hangat di hati. Oh, tak akan ku berhenti mengarungi deras hidup ini. Oh, oh, percaya dalam gelap sinar kau menyala, harapan kan ada. Berhentilah berputus asa, berhentilah berputus asa. Percaya dalam gelap, harapan kan datang membawa
auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Ran, dont le titre est Nyanyian Harapan, qui signifie la chanson d'espoir. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie, et en petit titre, le ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises, PME, s'associe à l'IFC pour attirer des acheteurs étrangers de produits halal pour les PME. Le ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises PME collabore avec la Chambre de la mode indonésienne IFC pour attirer des acheteurs étrangers. Cela a été fait en organisant des activités régulières à l'échelle internationale pour commercialiser des produits pour les PME halal, y compris la mode et la cuisine musulmane. Comme l'a déclaré le président de l'IFC, Ali Karisma, après une réunion avec le ministre des coopératives et des PME, Teten Masduki, au bureau du ministère des coopératives et des PME à Jakarta jeudi. Ali Karisma a déclaré que pour le développement des affaires, son parti a déjà des activités de Moufes, au festival musulman, qui devraient être adoptées et collaborer avec des programmes du ministère des coopératives et des PME. Selon Ali Karisma, l'Indonésie doit avoir des activités internationales régulières. Selon lui, l'activité a été réalisée au moins deux fois par an pour pouvoir attirer des acheteurs étrangers. Il accueille au moins 400 marques locales, dont la plupart seraient très utiles s'il y a des expositions ou des festivals qui attirent des acheteurs étrangers, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire de la marque directe à l'étranger, ce qui est coûteux. Cependant, Victoria Simanungkalit, adjointe à la production et à la commercialisation au ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises, a déclaré que le ministère collabore également avec d'autres ministères, y compris le ministère des Affaires étrangères, pour organiser des événements internationaux ainsi que pour soutenir les acteurs des MPME
membre de la Chambre de la mode indonésienne. Il a un événement intitulé Festival Halal qui se tiendra également avec l'agenda du sommet Halal initié par le ministère des Affaires étrangères et invitera de nombreux acheteurs étrangers. Donc, cette année, deux activités d'envergure mondiale auront lieu, à savoir Moufest 2020 le 20 février 2020 à Jakarta et Halal Festival 2020 du 25 octobre au 2 novembre au JCC Jakarta. Selon Victoria, si ce festival devient une activité annuelle, les jasteurs auront un calendrier spécial pour se rendre en Indonésie. Ali Karisma espère que ces événements pourront étendre le réseau de commercialisation des petites et moyennes entreprises en Indonésie, y compris les membres de la Chambre de la mode indonésienne qui devraient compter environ 700 à 1000 marques locales qui participeront aux deux expositions. Il espère également que les transactions directes lors de l'exposition dans chaque activité pourrait atteindre plus de 100 milliards rupiah. Cependant, le ministre des coopératives et des PME, Teten Masduki, espère que ces efforts permettront également de faire évoluer l'industrie dans le domaine des produits halal, dont la mode musulmane de l'amont vers l'aval, de substituer les produits importés et même d'encourager le développement des filières de soutien. Chers amis, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Keep
c'était la chanson de Chocolat dont le titre est Segitiga ou en français le triangle. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel en produisant la cascade Aling Aling à Bali. La cascade Aling Aling est une cascade cachée qui est rarement visitée par les touristes. Cet objet touristique est situé dans la zone nord de Bali, près de la ville Singaraja ou de la région Buleleng, précisément dans le village Sambangan, district Sukasada. La cascade Aling Aling est à environ 110 km du centre de Bali ou à environ 3 heures de route de l'aéroport Ngurah Rai. La cascade Aling Aling est l'une des nombreuses chutes d'eau appréciées des touristes étrangers. La beauté du paysage n'est pas seulement autour de la cascade, mais aussi sur le chemin de la cascade Aling Aling. Sur le chemin de l'emplacement de la cascade, vous traverserez les rizières et la petite rivière et un lot très vache. Des nuances naturelles et belles seront sentir à proximité de la cascade. La cascade Aling Aling est entourée de hautes falaises et d'arbres verts luxuriants. La cascade Aling Aling possède deux jets d'eau qui plongent simultanément dans la vallée. La cascade à droite de la décharge d'eau est plus grand par rapport à la cascade à gauche. La hauteur de la cascade Aling Aling est d'environ 35 mètres, suffisamment haute pour que les visiteurs soient exposés aux rafales d'eau dans le vent. Sous la cascade, il y a un bassin assez profond, d'environ 4 mètres. Le rugissement de la cascade et la lumière du soleil sortant de derrière les arbres rendront l'atmosphère autour de la cascade calme et paisible. Avant d'arriver à la cascade, vous devez d'abord monter des centaines de marches, mais toute votre fatigue sera payée avec une vue sur la cascade qui est très belle et fraîche. Il n'y a pas de tarif officiel pour entrer dans la cascade Aling Aling, mais si vous voulez prendre des photos autour de la cascade Aling Aling, vous devez payer 25 000 rupiah. Si vous voulez nager et tester l'adrénaline, vous devez être accompagné d'un guide. Ce guide vous guidera à travers le chemin de randonnée jusqu'au printemps. En plus de pouvoir essayer de sauter des falaises autour de cette cascade, d'une hauteur de 5 à 15 mètres, vous pouvez également essayer le toboggan naturel. Pour le service de guide touristique, vous ne devez payer que 125 000 rupiah. Le bon moment pour visiter la cascade Aling Aling est pendant la saison sèche, car pendant la saison des pluies, outre que la route est glissante, l'eau est également trouble. Il est également conseillé de porter des chaussures en caoutchouc afin qu'elles ne glissent pas facilement lors du passage à travers des rochers glissants. Et bien sûr, n'oubliez pas d'apporter un changement de vêtements également des boissons, étant donné que le terrain traversé est assez drainant. Cher ami, c'était le magazine culturel.
Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu, aku persembahkan hidupku untukmu.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée Pupus, chantée par Dewa. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur informant sur Bogor Street Festival, soit le Festival de la rue Bogor 2020. L'Indonésie a de nombreux festivals et rituels culturels intéressants à regarder. Aujourd'hui, le 8 février 2020, le Festival de la rue Bogor a eu lieu, qui a été choisi comme l'un des 100 principaux événements touristiques du calendrier des événements merveilleux en Tunisie du ministère indonésien du tourisme et de l'économie créative. Les arts et la diversité culturelle sont présentés différemment de l'année précédente. Cette année, une exposition spéciale d'art et de la culture de Papouasie et de Nusa Tenggara Est. Le Festival de la rue Bogor a lieu le long de la rue Surya Kencana, Bogor. Bogor Street Festival 2020 est une grande fête qui offre une variété d'excitations à travers 42 contenus uniques. Dans ce festival, vous pouvez regarder les arts culturels, la musique live, la touche religieuse, la littérature, le nationalisme, l'expo, les différents concepts de carnaval. Lors de cet événement, une performance colossale a également eu lieu le long de la rue Surya Kencana Bogor, Jawa West. Le maire de Bogor, Bima Arya Sugiarto, a déclaré que le festival de cette année était de meilleure qualité que les années précédentes. La variété des événements du Bogor Street Festival 2020 a également été de plus en plus animé avec l'apparition du monologue Kabayan et la lecture de Wangsit Siliwangi. Wangsit Siliwangi fait de nombreuses remarques et rappelle aux gens de revenir à leur vraie nature en tant que créature de Dieu. En plus de la lecture de Wangsit Siliwangi, il y a un certain nombre d'événements présentés par le gouvernement régional pour faire ressortir les couleurs du nationalisme tels que Purna Paskibraka Indonesia, Drum Band Cangkak Satria Bakti, Marching Band Mai et d'autres. Le Festival de la rue Bogor 2020 présente également une variété de danses, telles que les danses Dayang, Rengkong, Tayub et Panarat. Les députés d'Ajoang de Destination Régionale 2 du ministère indonésien du Tourisme et de l'Économie Créative, Wawan Gunawan, a déclaré que le Festival de la rue Bogor était un grand événement. Les couleurs traditionnelles et modernes juxtaposés sont uniques. Il existe de nombreuses valeurs positives reparties. Ce festival fait partie de l'union en tant que nation et État. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Tinggallah di sini ku sendiri, ku menunggu.
C'était la dernière chanson intitulée « Selepas kau pergi » ou en français « Après avoir ton départ » chantée par La Luna. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde avec le magazine musical. Cette édition, je vais vous présenter la chanson de Kroncong intitulée Kenangan Lama ou en français Vieux Souvenirs. Cette chanson créée par Budiman Bijay et Acep Jamaluddin raconte de quelqu'un qui se souvient d'une histoire d'amour dans le passé. De temps en temps, il se souvient toujours des bons souvenirs de son adolescence. La mélodie de la guitare qui accompagnait la chanson d'amour était comme si attachée à sa mémoire. Bon, chers auditeurs, voici Indah Susanti chantant la chanson intitulée « Kenangan Lama ».
Thank you.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité et restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. À bientôt!